bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement des consultations sur la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois. Mon nom est Jean Dionne et je vais animer cette conférence de presse. Conférence de presse, tout d'abord, M. Pronovo, le président de la Commission, vous présentera le document de consultation. Les commissaires, M. Mario Dumais et Mme Pascale Tremblay, compléteront la présentation. Ce sera suivi d'une période de questions et ça devrait être terminé vers 15 heures. Par la suite, M. Pronovo sera disponible à l'avant pour des entrevues. Alors, sans plus tarder, M. Pronovo.
Chers collègues commissaires, Pascale Tremblay, Mario Dumais, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, d'abord, bien le bonjour. Je vous remercie d'abord de votre présence. Votre intérêt est d'autant plus apprécié que cette conférence de presse est un jalon important pour la réalisation de notre mandat. Elle marque, en effet, le lancement de la période de consultation publique. Au cours des prochains mois, nous allons consulter très systématiquement les Québécois sur les politiques publiques à mettre de l'avant pour assurer l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Comme nous y étions engagés, nous avons préparé un document de consultation intitulé « Agriculture et agroalimentaire, choisir l'avenir ». Ce document que nous rendons public aujourd'hui comprend 10 chapitres portant sur des sujets comme la production, la transformation, l'environnement, la santé, la ruralité, la gouvernance, etc. Chacun de ces chapitres souligne des constats généralement reconnus ou fréquemment avancés et inclut des données qui illustrent des tendances. Il pose aussi un certain nombre de questions que nous soumettons à la consultation. Après avoir adopté ses politiques de fonctionnement et son code d'éthique, la Commission a entrepris une série de rencontres exploratoires qui lui ont permis d'échanger avec des organisations du secteur, des ministères, des organismes gouvernementaux, des individus reconnus pour leur expertise, ainsi que de visiter des établissements agricoles et agroalimentaires. Ces rencontres ont facilité et enrichi la démarche de préparation du document de consultation. La liste des organismes, des personnes et des lieux concernés est disponible sur le site Internet de la Commission. Nous avons aussi mis en place un comité consultatif avec lequel nous avons validé certaines analyses. Les membres de ce comité nous ont donné de précieux avis sur le contenu du document de consultation et nous les remercions très chaleureusement. Soulignons toutefois que les commissaires demeurent pleinement et seuls responsables du contenu et de la facture du document que nous vous présentons aujourd'hui. La liste des membres du comité consultatif est également disponible sur le site de la Commission. Je tiens à remercier ceux et celles qui nous ont alimentés et appuyés dans ce travail préparatoire à la consultation publique. S'il y a une chose que nous pouvons affirmer dès maintenant, c'est qu'ils ont manifestement tous à cœur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois. Ils ont des bonnes idées, sont prêts à partager leurs compétences et ils ont en commun le désir de contribuer activement à la réalisation du mandat de la Commission. Cela augure très bien pour la suite des événements. Le document de consultation que nous vous présentons aujourd'hui ne prétend surtout pas à l'exhaustivité et ne veut pas, non plus, préjuger des résultats de la consultation ni des recommandations qui en découleront. Notre seul objectif est d'alimenter la réflexion et de faciliter la participation la plus large possible. Il ne serait ni logique ni opportun d'avancer dès maintenant des thèmes ou des avenues de réponse qui présumeraient des résultats des consultations régionales et provinciales. Notre objectif aujourd'hui est de susciter la mobilisation, d'amorcer un débat animé et ouvert et, d'une façon générale, de lancer correctement la discussion. La structure du document, les termes qu'il utilise et la façon dont sont rédigées les questions veulent soutenir et appuyer cet objectif. Le gouvernement du Québec nous invite à élaborer ensemble les principaux éléments d'une vision renouvelée de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pour y parvenir, la voie des échanges ouverts, transparents et rigoureux est non seulement la meilleure, mais à plusieurs égards, la seule possible. dans ce contexte, le rôle des médias est fondamental. J'aimerais donc partager avec vous quelques observations qui se sont imposées à nous au moment de rédiger le document de consultation. Pour les fins de cette présentation, je regrouperai mes observations autour de trois grands termes. Tout d'abord, les besoins alimentaires de la population. Deuxièmement, la façon dont nous comblons ces besoins. Et finalement, le contexte social et environnemental dans lequel évolue le secteur agricole et agroalimentaire. Je débute par quelques observations sur les besoins alimentaires de la population. Le premier chapitre de notre document porte sur les besoins alimentaires internes et externes. On y fait remarquer que, compte tenu de la stabilité de la population et du niveau de consommation déjà atteint, le volume de la consommation alimentaire québécoise devrait normalement plafonner. Par contre, l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement de la population, la diminution de la taille des ménages, l'accroissement du niveau d'éducation, la diversité culturelle et les nouvelles valeurs sociétales accéléreront la diversification des goûts et des besoins. Quant à elle, la demande alimentaire internationale croîtra rapidement en quantité comme en qualité. Le chapitre qui porte plus spécifiquement sur la santé souligne aussi les préoccupations grandissantes de la population à l'égard d'une saine alimentation et de tout ce qui touche la sécurité et l'innocuité des aliments. Il est essentiel que les producteurs agricoles et des entreprises de transformation, de même que les réseaux de distribution, développent une vision claire des besoins alimentaires de l'avenir et qu'ils déterminent comment ils contribueront à satisfaire ces besoins. C'est pourquoi nous sollicitons les avis sur ce sujet et d'une façon toute particulière, des propositions sur les moyens de renforcer les liens de communication et de confiance entre les consommateurs et la chaîne de production alimentaire. Ma deuxième série d'observations porte sur la production, la transformation, la distribution et le commerce extérieur, sur la façon, en quelque sorte, dont nous comblons nos besoins alimentaires. Le chapitre sur la production aborde le problème des revenus agricoles en lien avec d'autres sujets, comme les structures de production, les politiques agricoles, les programmes d'amélioration et de stabilisation des revenus et la gestion de l'offre. Force nous est de constater que dans le contexte actuel de compétition mondiale, les prix des denrées alimentaires ont tendance à stagner, voire à baisser alors que ceux des facteurs de production augmentent. Malgré des gains substantiels de productivité, sans l'apport des programmes gouvernementaux, le revenu net agricole des fermes québécoises est négatif ou serait négatif. Pendant ce temps, l'endettement des entreprises agricoles augmente, ce qui les rend plus fragiles. Pourtant, la valeur des fermes monte en flèche. C'est un paradoxe dont il faut examiner toutes les dimensions. Il est permis, en effet, de se demander si l'on peut continuer longtemps sur cette voie. Par ailleurs, comme le rappelle le chapitre sur le commerce extérieur, le Québec compte sur les échanges interprovinciaux et internationaux pour satisfaire une bonne partie de ses besoins alimentaires. Soulignons que 45 % de ce qui est consommé au Québec provient de l'extérieur. Je parle de consommation alimentaire, bien sûr. Notons aussi que les exportations de biens et services, dont les exportations de produits agricoles et agroalimentaires, permettent aux Québécois d'aller chercher à l'extérieur une partie des revenus dont ils ont besoin pour maintenir ou développer le niveau de vie auquel ils sont habitués. On observe toutefois un certain nombre de problèmes dans le secteur de l'exportation, particulièrement dans le domaine du porc. Le taux d'augmentation de la valeur de nos exportations a diminué au cours des trois dernières années. Les données du premier trimestre de 2006 indiquent même une diminution de la valeur des exportations de produits alimentaires. Il est essentiel de bien comprendre les facteurs conjoncturels et structurels qui causent les difficultés actuelles. Nous sollicitons les analyses et les points de vue à ce sujet. Dans un contexte de compétition internationale toujours plus vive, le développement de nouveaux savoirs et l'acquisition de nouvelles compétences constituent des leviers qui nous permettent de nous affirmer. Le savoir-faire et la technologie sont des vecteurs d'innovation et de productivité. C'est pourquoi nous avons consacré un chapitre à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation des ressources humaines. Les politiques, stratégies et programmes qui soutiennent nos activités de recherche et de formation sont-ils vraiment adéquats? Nous avons aussi consacré deux chapitres à la transformation et à la distribution alimentaire. Si le Québec compte sur un excellent réseau d'entreprises, de transformation alimentaire, dont plusieurs sont très actives sur les marchés d'exportation, ils ne possèdent pas, pour ne donner qu'un exemple des problèmes que nous connaissons, de marque nationale ou internationale. Au cours des deux dernières décennies, nous avons aussi assisté à un phénomène de concentration et de consolidation du secteur de la distribution. L'accès au marché est devenu plus difficile, notamment pour les petites et les moyennes entreprises de transformation. En effet, ces dernières n'ont pas toujours la capacité de fournir les volumes requis par les grands réseaux de distribution. De plus, les centres de décision stratégique, et il faut le constater, les centres de décision stratégique de distribution sont maintenant, pour une bonne part, situés à l'extérieur du Québec. Quelle politique et stratégie devrions-nous adopter ou privilégier pour assurer le dynamisme et le développement de nos entreprises de transformation alimentaire? Mon troisième groupe d'observation porte sur le contexte physique et social dans lequel évolue le secteur agricole et agroalimentaire. Parce qu'elle occupe une grande partie du territoire habité du Québec, l'agriculture a un impact déterminant sur l'environnement et elle doit aussi, pour demeurer viable, préserver les ressources qu'elle utilise. Une eau et un sol de qualité sont essentiels. Si les efforts consentis au Québec semblent bien se comparer à ceux observés ailleurs, les constatations des chercheurs font toutefois craindre que les résultats obtenus ne soient pas complètement satisfaisants et que l'équilibre nécessaire au développement durable ne soit pas encore atteint. C'est pourquoi, dans le chapitre sur l'environnement, nous invitons les participants à s'exprimer sur les stratégies et les conditions qui assureraient l'atteinte et le maintien des nécessaires équilibres entre l'environnement et l'agriculture. Même si la population agricole n'est plus majoritaire en milieu rural, l'agriculture et l'agroalimentaire demeurent des actifs importants de nos régions et des communautés rurales. L'agriculture fournit au moins 10 % des emplois dans 13 des 17 régions administratives du Québec. Il faut évidemment ajouter à ces emplois ceux offerts par les entreprises de transformation et de distribution alimentaire. Il faut aussi considérer dans notre calcul les nombreux emplois liés à l'agriculture et dans les domaines qui lui sont connexes ou nécessaires, comme par exemple ceux des intrants agricoles, du transport, de la vente et de l'entretien de la machinerie, des services vétérinaires, des services conseils, de la construction, du financement des services publics. Il est vital de bien définir les conditions et les stratégies à mettre en place pour que l'agriculture et l'agroalimentaire contribuent le plus efficacement possible à la vitalité et à la pérennité des communautés rurales. À l'occasion des audiences publiques régionales, nous souhaitons aussi explorer plus en profondeur certains thèmes particulièrement névralgiques, comme par exemple la relève agricole, les productions non comestibles, les projets ou solutions qui ont valeur exemplaire ou qui sont particulièrement riches de potentiel. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus loin quand je présenterai notre projet de table ronde. Le dernier chapitre porte sur les principaux acteurs et le rôle qu'ils jouent dans la gouverne du secteur. Les gouvernements fédéral et provincial, les institutions qui en dépendent, les élus locaux, les coopératives et l'Union des producteurs agricoles. Notre analyse doit aussi se préoccuper des relations entre les acteurs et des équilibres nécessaires au bon fonctionnement du secteur. Nous sommes intéressés à connaître et à entendre les analyses et les opinions des participants à ce sujet. Je m'arrête ici sans avoir fait le tour des sujets soumis à la consultation. Évidemment, les participants pourront aussi, s'ils le souhaitent, se prononcer sur d'autres sujets que ceux couverts dans le document. Comme vous le constaterez, en lisant le document de consultation, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire est beaucoup plus riche et complexe que le portrait sommaire que je viens de dresser et qui n'avait d'autre ambition, soulignons-le, que de vous mettre en appétit. Il me faut toutefois souligner avec une certaine emphase que la structure qui nous a fait répartir les différents thèmes de consultation dans un certain nombre de chapitres se veut tout simplement un instrument commode pour structurer les réflexions et les échanges. Elle ne doit cependant pas nous faire oublier que tous ces thèmes, tous ces sujets sont étroitement reliés et que les orientations que nous donnerons pour encadrer ou influencer les uns auront nécessairement des conséquences pour les autres. La réalité est souvent faite d'éléments qu'on peut difficilement dissocier autrement que par l'esprit. Nos discussions devront tenir compte des interrelations entre les problématiques examinées. La Commission veut examiner les problèmes comme les solutions, mais dans une perspective délibérée de croissance et de qualité de vie pour l'ensemble des Québécois et aussi pour ceux qui travaillent dans le secteur ou qui en vivent. Il faut faire ensemble des choix en production agricole, en environnement et en développement du territoire. Il ne s'agit pas de livrer au gouvernement et aux citoyens un compendium de problèmes, mais de mettre les potentiels en évidence et de suggérer des orientations porteuses d'avenir. Les audiences que nous tiendrons bientôt à la grandeur du Québec permettront à tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer et de participer à ces choix. Les audiences régionales auront lieu de février à mai 2007. La Commission visitera 15 régions et 26 municipalités. Dans chaque région, l'horaire sera adapté en fonction du nombre de personnes et de groupes qui auront demandé à être entendus. Nous souhaitons que les gens viennent nous parler de leurs difficultés, mais aussi de leurs bons coups, de leurs succès et surtout de la façon dont ils voient ou rêvent l'avenir. Avec ou sans mémoire écrite, nous invitons tous ceux qui le souhaitent, en particulier les jeunes, à nous entretenir de leurs aspirations, de leurs idées et de leurs projets. Pour approfondir les thèmes à l'étude et ajouter des moments de véritable débat à sa démarche de consultation, la Commission organisera 7 tables rondes. À Victoriaville, la table ronde portera sur la qualité de vie des familles agricoles. À Saint-Hyacinthe, nous discuterons des productions non alimentaires comme les bioénergies, les fibres et les médicaments. À Rimouski, des nouvelles façons de s'établir en agriculture. À Joliette, de l'environnement. À Sherbrooke, des caractéristiques de la nouvelle ruralité. À Alma, de la contribution de l'agriculture au dynamisme des régions. En juin, à Montréal, enfin, nous compléterons les tables rondes sur le thème du dialogue à construire entre les consommateurs et le secteur agricole et agroalimentaire. Pour mieux accommoder les participants, dont le champ d'action est provincial, la Commission organisera aussi 2 séances d'audience publique qui se tiendront à Québec et à Montréal en juin 2007. Les personnes et les groupes qui y participeront auront d'abord fait l'objet d'une invitation de la Commission. Les mémoires traitant principalement d'agriculture seront entendus à Québec. Ceux qui aborderont les thématiques liées à la transformation et à la consommation seront entendus à Montréal. Ces audiences seront précédées ou suivies d'audiences grand public où les personnes et groupes qui le souhaitent pourront se présenter, cette fois sans invitation. Nous avons conçu le site Internet de la Commission non seulement comme un canal d'information, mais aussi comme un outil pour faciliter la participation. Il sera possible, entre autres, d'y suivre en direct le déroulement des audiences publiques et des tables rondes. Les fichiers en format audio demeureront disponibles et pourront être écoutés en différé. Une section du site est réservée à la discussion des avis et des commentaires du public. Des données et des documents y sont déjà disponibles pour consultation en ligne. Ceux et celles qui préparent un mémoire sont invités à utiliser ces documents dont le nombre et la variété augmentent de jour en jour. Tous les documents et mémoires déposés à la Commission peuvent être consultés en ligne. Il est finalement aussi possible de s'abonner à une infolettre. Nous ferons un effort très délibéré pour examiner toutes les dimensions des problèmes traités et recueillir systématiquement les différents points de vue. Nous favoriserons le dialogue, la conciliation des points de vue, l'équilibre des solutions, l'articulation de consensus viables. La Commission invite tous les participants, tous les intéressés, tous les Québécois à miser délibérément sur une réflexion en profondeur et des choix équilibrés. Il faut tout mettre en œuvre pour que la sagesse et le simple bon sens de nos choix en fassent des incontournables sur lesquels les gouvernements devront asseoir leur politique. À ce sujet, j'aimerais préciser que, bien que nous ayons reçu notre mandat du gouvernement du Québec, les politiques fédérales sur des sujets comme la gestion de l'offre, les ententes internationales, la traçabilité des aliments sont absolument déterminants. La Commission ne s'interdira pas de faire des recommandations qui toucheraient des responsabilités actuellement assumées par le gouvernement fédéral. Comme son nom l'exprime bien, la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois n'a pas été créée pour le court terme, mais plutôt pour dessiner une vision du long terme. L'avenir, pensons-nous et affirmons-nous, n'est pas écrit à l'avance. Il est ce que l'on choisit d'en faire. Il dépend des choix que l'on pose après avoir bien disséqué, compris et décrit la réalité, les opportunités comme les menaces. Les gouvernements ne peuvent ignorer une vision claire et partagée. Les Québécois sont reconnus pour leur capacité créative et leur sens de l'innovation. Même si la société québécoise n'a aucune tradition dans le domaine, des gens parmi nous ont trouvé l'élan et le savoir-faire pour créer, notamment, c'est un exemple que j'aime bien citer, le Cirque du Soleil et s'imposer comme des leaders mondiaux. Je ne vois pas pourquoi, en agroalimentaire, un domaine qui est ancré dans nos traditions de société les plus profondes, nous ne trouverions pas ensemble les idées et les ressources qui nous permettront d'entretenir et de développer une effervescence créative dont les participants aux travaux de la Commission nous montreront sans doute les exemples les plus éloquents. J'invite tous ceux et celles qui ont à cœur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire à dessiner cet avenir avec nous. Je demanderai maintenant à mes collègues commissaires de souligner certains éléments de ces perspectives d'ensemble que je viens de vous livrer, auxquels nous attachons une importance particulière. Je me tiendrai ensuite à votre disposition pour une période de questions et je vous remercie de votre attention. Est-ce que Mario, tu veux enchaîner?
Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Mario Dumais. J'aimerais ajouter que j'ai œuvré durant plus d'un quart de siècle au sein du monde agricole, d'un monde agricole soutenu par des programmes gouvernementaux et régi par un certain cadre législatif et réglementaire. Ces normes et ces programmes concrétisaient un type de politique agricole adapté au contexte de l'époque. De plus, la cohabitation harmonieuse du monde agricole et des autres composantes de la société allait de soi. L'univers dans lequel on avait mis en place ces politiques a cependant profondément changé. Le monde agricole et agroalimentaire d'aujourd'hui est le résultat d'une évolution sans précédent qui l'a façonné au cours du dernier siècle. L'explosion démographique vécue durant cette période et la révolution verte qui est intervenue pour y faire face ont changé profondément les structures du secteur et les façons de faire traditionnelles, ici comme ailleurs. Comment l'agriculture et l'agroalimentaire québécois peuvent-ils tirer leur épingle du jeu dans ce nouveau monde? Quelles adaptations sont nécessaires? Qu'est-ce qui peut et doit être maintenu dans nos façons de faire? Qu'est-ce qui doit changer? Je m'apprête, avec mes collègues de la Commission, à écouter avec attention les propositions et les suggestions qui nous seront faites à cet égard. Un des buts de la démarche est de permettre au secteur de réaliser son plein potentiel en matière de développement durable en contribuant à satisfaire d'une manière adéquate les besoins alimentaires d'ici et d'ailleurs. Merci.
Bonjour. Alors, vous aurez deviné que je suis Pascale Tremblay. Ce que je tenais à dire cet après-midi, c'est que si j'ai accepté de m'impliquer activement et avec toute ma bonne volonté au sein de la Commission, dans les travaux sur la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est d'abord et avant toute chose parce que j'y crois. Ça, c'est la base. Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire est vital pour la société. Ça a toujours occupé une place importante dans l'histoire du Québec. Et j'espère que ça va toujours occuper une place importante dans l'avenir du Québec. Le défi auquel on fait face maintenant, c'est de s'adapter aux réalités actuelles de la société. Depuis la mise en place de la commission l'été dernier, et je dirais au cours des 17 dernières années, même plus de ma vie, j'ai eu l'occasion et la chance d'échanger avec plusieurs agriculteurs et agricultrices, plusieurs acteurs du secteur de la transformation agroalimentaire, des artisans. Et il est évident que la période, que les changements qu'on a vécu au cours des deux dernières décennies nous placent ces gens-là dans une situation de grand questionnement et d'inquiétude. Le message qu'on a reçu jusqu'à maintenant à travers les quelques rencontres qu'on a faites, c'est que les gens du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire acceptent avec empressement l'invitation qu'on leur lance et veulent participer activement à explorer des solutions. Maintenant, pour développer des perspectives d'avenir intéressantes pour ceux qui vivent de l'agriculture maintenant et ceux qui souhaitent en vivre dans les années à venir, donc pour la relève, il faut arriver à développer un nouveau pacte social, un projet où tout le monde va se sentir en phase aussi avec les attentes de la société. Il ne faut pas hésiter et avoir peur de voir le débat s'étendre à l'ensemble de la population. Au contraire, la participation la plus généreuse possible dans tous les sens du terme est déterminante. Donc, ceux qui ont des attentes par rapport à l'agriculture et à l'agroalimentaire, évidemment, mais aussi à l'environnement, à la santé, à la qualité, à la disponibilité des aliments. Donc, les consommateurs et les citoyens sont aussi attendus et on espère vont participer activement au débat et à ce débat de société qui débute. Je pense aussi que ce qu'on entend souvent, c'est que le milieu agricole a besoin de sentir et d'entendre que les gens, que l'ensemble de la société est avec eux dans cette réflexion-là. Et c'est par la communication qu'on va réussir à rapprocher les milieux agricoles et urbains. Le défi de la communication des enjeux agroalimentaires n'est pas simple, j'en sais quelque chose, et c'est un défi qu'on relève avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup d'ondes positives, et j'espère que on va le partager avec vous au cours des prochains mois. Voilà.
Madame Tremblay, Monsieur Dumay, Monsieur Pronovo, merci. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions. Quelques règles très simples. Si c'est possible de vous avancer à l'avant, de nous donner le nom de votre média, je vais privilégier les premières questions, évidemment. La conférence de presse est enregistrée et comme toutes les activités publiques de la commission, ça peut être entendu sur le site Internet de la commission. Alors, si des gens ont des questions.
Oui, Pierre Duchesne, Radio-Canada. Monsieur Pronovo, vous parlez, les observations de votre groupe parlent de l'UPA, de son rôle. Vous soulignez une observation, semble-t-il, que plusieurs vous ont présentée sur la forte présence de l'UPA au conseil d'administration de la financière agricole, sur le fait qu'il y a un monopole syndical. Pourquoi? Il y a quand même beaucoup de paragraphes là-dessus. Peut-être nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à ce genre d'observation, à l'indiquer de cette façon-là.
Il nous apparaît toujours absolument indispensable dans l'examen qu'on va faire de l'ensemble des problématiques du secteur de regarder toutes les questions relatives à la gouverne. La gouverne, c'est le rôle du gouvernement fédéral. C'est aussi la mission du ministère de l'Agriculture. Quand je dis le rôle du gouvernement fédéral, on discute actuellement de nouvelles stratégies canadiennes en matière d'agriculture. Ça va être au centre des discussions, ça, entre le Québec et le gouvernement fédéral. On parle du rôle du ministère de l'Agriculture. Beaucoup déplorent que le ministère de l'Agriculture se définit un peu étroitement comme un ministère à vocation économique. D'autres nous ont parlé aussi du rôle important que joue l'UPA dans plusieurs lieux où on prend des décisions importantes en matière de gestion, de mise en marché, par exemple, protection du territoire agricole et au sein de la financière agricole. On pensait absolument essentiel d'ouvrir cette question-là et de solliciter l'opinion des participants là-dessus, parce que faire un débat sur l'avenir de l'agriculture sans regarder sa gouvernance, ça nous semblait absolument impensable.
Mais est-ce que je comprends
c'est que... dans cet esprit-là que les passages que vous citez ont été écrits.
Mais est-ce que je comprends que plusieurs ont donc critiqué un peu la position prédominante ou le monopole de l'UPA?
On reçoit toutes sortes de questions. On verra aux audiences là, qui est critique et qui ne l'est moins, qui affirme que ça devrait être encore davantage de cette façon-là, ou d'autres qui vont dire que ça devrait l'être moins. Les audiences vont nous dire si le monde est critique là-dessus.
Harold Duchesne, émission La Semaine Verte à Radio-Canada. Je sais que dans le milieu agricole actuellement, on est extrêmement inquiet, désireux que cet exercice-là, bien sûr, ait lieu, mais en même temps inquiet. Peut-être qu'ils sont échaudés de, par le passé de d'autres consultations publiques qui ont eu lieu dans ce milieu-là, où ils ont fait les frais d'accusations très sévères. Sans laisser entendre qu'il ne faut pas critiquer les pratiques agricoles actuelles, au contraire, mais il est inévitable que des groupes viennent critiquer justement les pratiques agricoles actuelles. Vous avez consulté beaucoup de gens, beaucoup de groupes à ce jour. Vous avez déjà reçu des intentions de certains groupes de se faire entendre lors de ces audiences-là. Est-ce que vous avez prévu qu'on tombe pas justement dans le procès pur et simple de l'agriculture, que ces procès-là ne prennent pas trop de place dans cette consultation-là et qu'il y ait vraiment de la place pour des réflexions sur l'avenir de l'agriculture? Comment éviter ça?
On est très conscient du fait que les agriculteurs arrivent à cet exercice-là un peu avec l'allure de ceux qui ont été échaudés par des discussions antérieures. Je pense beaucoup quand je dis ça aux audiences sur l'industrie porcine. On peut les comprendre d'ailleurs. C'est pas facile pour eux de s'être fait traiter de pollueurs et de d'irresponsables qui traitent l'environnement d'une façon un peu cavalière. Le débat que nous entreprenons, c'est pas centré sur une industrie, c'est centré sur le devenir. Et tout le monde qu'on a consulté dans nos tournées préalables ont à cœur ce devenir-là, les agriculteurs, mais aussi tous les autres. Et j'ai la certitude que les gens vont aborder nos discussions avec un esprit positif, puis avec un regard qui est tourné vers le futur et le développement plus que vers exclusivement les péchés qu'on peut se reprocher les uns les autres.
Pierre-Yvon Bégin, La Terre de chez nous. Alors, pour faire suite à la question de mon confrère, vous posez des questions, entre autres, dans votre document vous posez la question, est-ce qu'on doit remettre en question la gestion de l'offre? Est-ce qu'on doit remettre en question l'aide de l'État, l'aide financière de l'État à des productions qui ont un système d'assurance? Alors, vous savez comme moi que c'est une question très complexe. Et poser une question comme est-ce que l'État doit continuer à financer des programmes, même si on dit que les producteurs agricoles contribuent pour le tiers, est-ce que poser cette question-là, ça vous amènera pas nécessairement à la réponse que non, il faut pas... Alors, dans ce sens-là, moi, je répète la question, c'est est-ce que les producteurs, entre autres, ne se sentiront pas encore une fois qu'on va faire leur procès puis leurs acquis? Entre autres, je parle de la gestion de l'offre sur laquelle ils se battent. Et alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ça va ouvrir un procès sur les productions agricoles?
Eh bien, on ne veut pas faire de procès. Et puis, je m'en voudrais si d'aucuns voyaient sous nos questions quelque élément de procès que ce soit. On a essayé de poser les bonnes questions. Et là, je vous renverrai un peu la balle en disant, est-ce que les questions que nous posons sont des questions bonnes, cruciales, centrales? Nous répondons que oui. Deuxièmement, est-ce qu'on doit faire ou non le pari que les gens qui travaillent dans ce secteur ou qui s'y intéressent de façon active sont capables d'y répondre de façon éclairée? Je pense qu'il faut répondre oui à ça. Nous cherchons ces réponses, nous ouvrons le débat et nous allons entendre toutes les représentations de ceux qui vont venir débattre de ces questions-là devant nous. Et il y a des gens fort compétents qui vont venir en débattre. Et trois, est-ce qu'on doit faire le pari que le temps est fini où on s'interdisait de poser des questions parce que, dans le fond, on se disait soit les Québécois ne sont pas capables d'en débattre ou encore soit qu'on n'est pas capable d'endurer des questions. Nous, on prend le pari que le moment est venu de poser les bonnes questions. On pense que le moment est venu de les discuter sereinement, que les gens sont prêts à ça et qu'à terme, on va tous y gagner en se donnant des réponses qui, le plus possible, sont des réponses qui sont connues, partagées et admises. On a tout intérêt à faire un débat qui est un débat éclairé au lieu d'y aller puis de répondre à ces questions-là qui se posent actuellement, d'y répondre avec nos préjugés ou nos perceptions à moitié éclairées. Pensons-nous.
Monsieur Pronovo, Robert Trisac, du Devoir. Vous dites dans le document que vous observez des difficultés dans le monde agricole, des turbulences. Il y a des gens qui disent crise. Quelle est votre évaluation de la situation? La commission est-elle là justement en raison d'une situation grave, une situation de crise? Est-ce que la commission a pour rôle justement de trouver une espèce de porte de sortie à un secteur ou à des secteurs qui sont en grave difficulté?
Là-dessus, votre question me renvoie un peu aux raisons qui ont fait que le gouvernement a mis la commission sur pied. Oui, il y a des problèmes. Je pense que tous les intervenants du monde agricole soulèvent des problèmes qui sont des problèmes importants. Certains d'entre eux même vont jusqu'à parler de crise. Et ça, c'est des mots que j'emprunte à des journaux comme La Terre de chez nous ou à des revues comme celle de la Coopérative fédérée. Oui, il y a des problèmes. Les gens qui ont à traiter ces problèmes-là ne voient pas toujours les choses d'un même œil. Les gens ont souhaité publiquement débattre de ces choses-là et c'est pour ça que la commission a été créée. Oui, il y a des problèmes et le gouvernement, dans le fond, compte sur cette discussion-là pour, dans le fond, bâtir des politiques qui vont être plus adaptées au nouveau contexte et plus porteuses à venir.
Mario Vaillancourt, TQS. C'est un débat très large qui s'amorce. Si vous aviez à choisir un secteur plus névralgique, un secteur où il faudrait agir très rapidement, il y a urgence d'agir, ça pourrait être lequel?
Là-dessus, vous m'amenez sur les contenus, puis je préférerais ne pas répondre à ça à ce moment-ci, me laissant guider par le résultat des audiences publiques qu'on va tenir sur des sujets comme celui-là. On est là pour écouter les gens d'abord, avant de parler et de se prononcer. Toutes les opinions que je pourrais mettre à ce moment-ci ne seraient que des opinions personnelles qui s'appuieraient sur des perceptions que j'ai. Donc, je différerais ma réponse.
Lionel Levaque, Radio-Canada. Monsieur Pronovo, dans les contacts que vous avez eus, les rencontres que vous avez eues, les commissaires avec différents groupes jusqu'à maintenant, avez-vous l'impression que les gens sont, et les groupes, les organismes que vous avez rencontrés et qui veulent participer à faire des dépôts, des présentations à la commission, le font dans un esprit global pour le secteur agroalimentaire ou le font pour régler des problèmes qui sont de leur secteur précis, restreint, limité? Je prends à titre d'exemple le secteur de la distribution alimentaire et le secteur de la transformation alimentaire où bien des gens se disent avoir l'impression que trop de gens veulent faire de cette commission une commission sur l'avenir de la stricte agriculture.
Je pense que, tous ceux auxquels j'ai parlé comprennent bien l'ambition du mandat de la commission qui est d'embrasser l'ensemble des problématiques puis de les regarder comme partie intégrante d'un tout. Deux, ça ne les empêchera pas, il faut être réaliste, là, de regarder cet ensemble-là un peu avec la connaissance bien particulière qu'ils ont d'un secteur qui est celui qu'ils fréquentent habituellement. On est tous comme ça. Il y a des secteurs qu'on connaît plus, puis d'autres moins. La garantie qu'on a que ça ne sera pas un débat qui va être uniquement centré sur l'agriculture définie d'une façon un peu plus étroite, c'est la variété des groupes qui vont venir devant nous, participer au débat, et qui vont, avec beaucoup de force, intervenir sur des questions d'ensemble.
Mais lorsque vous parlez d'un esprit de consensus le plus large possible qui devra idéalement ressortir des travaux de cette commission à travers toutes les présentations qui vous seront faites, est-ce que justement les solutions ou les propositions que la commission pourra faire dans son rapport final devra, selon vous, établir justement des consensus globaux ou encore une fois y aller par secteur? Des consensus qui impliqueraient que tout le monde fonctionne dans une même et unique voie vers l'amélioration, le développement du secteur agroalimentaire?
Pour répondre adéquatement à votre question, je pense que là encore, il faudrait être un petit peu plus avancé dans notre démarche. Ce que je vous offrirais comme réponse à ce moment-ci, c'est que dans nos recommandations, c'est évident qu'on ne pourra pas bâtir sur des consensus mur à mur partout. Si on va aller à un certain degré de précision, il va falloir aussi trouver des solutions qui sont axées sur les besoins d'un secteur en particulier, mais dans une perspective d'ensemble, des solutions élaborées dans une perspective d'ensemble. Et puis, troisième élément que je mettrais sur la table, là où on ne réussira pas à faire de consensus, si l'ensemble des intervenants comprennent les besoins des autres et les représentations des autres, on aura déjà fait un bon pas en avant. Parce que, bien souvent, certains des conflits qu'on vit actuellement viennent du fait que les gens se parlent peut-être, mais ne s'entendent pas. Si la commission réussit à faire en sorte que les participants s'entendent en bonne partie, quand je dis s'entendent, se comprennent en bonne partie, on aurait déjà fait un bon bout de chemin.
Juste un instant, M. Bégin. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui souhaiteraient poser une première question? Ça va? OK.
Il y avait personne.
Alors, allez-y, M. Bégin.
Votre document fait un portrait de la situation de l'agriculture, de la distribution alimentaire et de tout secteur agroalimentaire. Est-ce que, pour alimenter justement la discussion et les échanges sur l'avenir de l'agriculture, est-ce qu'il ne manque pas dans votre document justement une portion sur des hypothèses ou des exemples d'une agriculture moderne et qui conviendrait. Alors, moi, c'est un peu ça. C'est sûr que pour les gens qui sont dans le domaine, votre document fait un portrait, mais ils n'apprendront pas grand-chose. Mais est-ce que, justement, il n'y aurait pas eu important d'amener d'ouvrir des horizons, justement, pour, disons, alimenter les discussions?
Tout dépend ce que vous entendez par ouvrir des horizons. On s'est résolument interdit d'être dans le portrait qu'on a tracé, de donner des exemples ou de poser des questions qui pourraient, aux yeux de certains, indiquer que la commission est biaisée en faveur de tel parti pris pour des stratégies de mise en marché ou de tel parti pris sur les méthodes utilisées pour cultiver les céréales, par exemple. On s'est interdit de faire ça. Et puis, les exemples que vous appelez par vos propos vont nous être fournis par les intervenants qui, eux, vont proposer des avenues puis vont les défendre avec force. Et puis, on va faire en sorte que les gens vont en débattre. Puis on va essayer de retenir avec eux les avenues qui apparaissent les plus prometteuses. On s'est réellement penché par en arrière pour faire un document qui est ouvert, qui n'est pas biaisé ni par les termes qu'il utilise, ni par les exemples qu'il avance, justement pour ne pas avoir l'air de décourager certaines opinions qui voudront se manifester devant nous. On a pris un soin particulier pour ouvrir notre consultation à toutes les opinions.
Oui. Régent Lacombe du Soleil, est-ce que les travaux de la Commission sont pas un peu hypothéqués au départ, alors que l'on sait, à cause de la globalisation des marchés, tout se passe à l'étranger, que ce sont les États-Unis, la communauté européenne qui décide des grands enjeux? Qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça, nous autres?
C'est évident que l'agriculture du Québec est soumise à un certain nombre de contraintes qui lui viennent d'ailleurs. Il y a des tendances mondiales, il y a les goûts des consommateurs, il y a les préoccupations de la population, il y a toutes sortes de contraintes, on pourrait en faire une liste. Mais là encore, et c'est pour ça que tantôt, dans
la présentation que je vous faisais, j'évoquais la nécessité de faire des choix, puis que j'affirmais très carrément le fait que le futur sera fait des choix que nous aurons convenus hein, d'adopter, c'est que ces contraintes-là nous laissent encore des marges de manœuvre. Il s'agit de choisir ensemble les bonnes. Tout n'est pas déterminé par les contraintes mondiales. Il y a des contraintes mondiales en genre réaliste, il faut en tenir compte, mais à l'intérieur de ces contraintes-là, on a encore de là une large place pour des initiatives à nous, puis des choix à nous qui vont faire qu'on va continuer de se développer, de progresser, malgré certaines de ces contraintes-là qui apparaissent, vues d'un certain point de vue, comme des lignes de force un peu contraignantes.
D'autres questions? Alors voilà, ça complète la conférence de presse. M. Pronovost est disponible à l'avant pour des entrevues.